Bonjour à tous. Je remercie vivement les organisateurs de ce colloque de m'avoir permis de parler de Coptos, que j'ai failli appeler ma communication Coptos beau port de mer, mais on va dire port du désert oriental. Alors que la tenue de ce colloque et la réunion de tous les collègues assemblés ici témoignent de la vitalité des recherches dans la zone du désert oriental et sur la côte de la mer Rouge dans les dernières décennies, la connaissance de Coptos, qui pourtant a fait l'objet de fouilles bien plus anciennes, reste fort lacunaire, et je parlerai volontiers de capitale invisible de la Haute-Égypte, effacée par Thèbes, toute voisine, effacée par les Sébarines qui, dans la deuxième moitié du XIXe siècle et le premier quart du XXe, ont prélevé, après les fouilles de Pétri et Reynac et Veil, ont prélevé nombre de monuments qui sont aujourd'hui dispersés de par le monde dans des musées et donnent une idée, donc ces vestiges aussi éloignés dans le temps que dans l'espace maintenant, donnent des idées relativement incomplètes et sans doute fort injustes de cette ville qui est restée un centre vital de la Haute-Égypte pendant plus de 4 millénaires. Donc à la suite des fouilles reprises en 2002 sous l'égide de l'IFAO et de l'Université Lyon 2, nous avons souhaité donc contribuer modestement à la réunion d'aujourd'hui en montrant quelques aperçus nouveaux sur les vestiges, surtout monumentaux, du site à l'époque hellénistique et romaine, en espérant que ces données vont peut-être fournir, enfin arriver à entrer en phase et en résonance avec d'autres réflexions sur l'histoire du réseau de communication qui, à travers l'Égypte, unissait l'Inde à la Méditerranée. Donc je commencerai par quelques rappels sur quelques aspects bien connus ou moins connus de Coptos à l'époque pharaonique dans la problématique qui nous intéresse, c'est-à-dire le désert oriental et puis les rapports désert-mer rouge, pour ensuite donc présenter un peu les résultats des fouilles récentes, en espérant que tout ça tiendra dans une demi-heure. Donc sur la Coptos pharaonique, donc tout le monde voit bien que Coptos est un endroit effectivement extrêmement avantageux, puisque la distance, une des distances les plus courtes, en tout cas pour la Haute-Égypte, la plus courte pour rejoindre la côte de la mer Rouge. Il est clair que le choix du site a été conditionné à la fois par cette commodité de circulation et par la richesse minérale du désert oriental, en particulier du Wadi Hammamat. Rappelons que le nom même de Coptos, ici représenté sur la chapelle, avec une malencontreuse lacune, sur la chapelle blanche de Sésostris Ier à Karnak, s'écrit avec l'idéogramme d'un sac d'étoffe qui oriente l'analyse étymologique du nom de la ville vers une lecture Gebtiou, ceux du sac, ceux qui appartiennent au sac, donc avec une orientation sur les minéraux précieux, que ce soit des pierres semi-précieuses comme la cornaline ou de la galène, de l'or, etc. Donc cette appellation se maintient à époque historique et le titre de Sementiou prospecteur, qui se détermine justement par un homme qui tient le même petit sac, est attaché précisément à la région de Coptos et est fort bien documenté dans cette zone. Yoyot a fait une très belle étude sur ce titre il y a quelques années. Les contacts avec la mer Rouge sont également évidents dès le début, sur des monuments extrêmement impressionnants et très bien connus, qui sont les colosses de mines trouvés par Pétri en fosse Favissa à différents endroits du Téménos gréco-romain, qui étaient donc les premières sculptures monumentales d'Égypte, dont quatre ont été reconnues, avec, évidemment dans des états, pour certaines, relativement peu satisfaisants. Mais on voit donc sur les mieux conservés, on note sur les cuisses de ces colosses des gravures de sens divers, dont certaines ont été, donc certaines, le nom de mine lui-même que vous voyez en bas à gauche, et des coquillages qui sont notoirement des coquillages attestés sur le littoral de la mer Rouge, ce qui semble donc indiquer une circulation de produits et probablement de personnes entre la vallée et la mer à cette date. Pour revenir sur le dieu mine, donc il y a un aspect évidemment assez peu convenable, je dirais, pour un dieu égyptien. Il faut rappeler qu'il est couramment à époque, surtout à partir du premier millénaire, appelé justement Medjay, le Medjay, c'est-à-dire le Bédouin, hein, qui est un des noms, on suppose, qui a abouti au moderne Béja, et porte aussi le nom de chasseur de Punt, ou bien celui qui sert Biaït, celui qui voit de loin les richesses, les trésors de Punt. Donc ce sont des appellations qui mettent en effet ce dieu fondateur, hein, ces statues datent de la deuxième moitié du quatrième millénaire avant notre ère, donc ce sont des objets fort anciens, et donc on voit directement, de par la tenue du dieu et par ses épithètes plus tardives, qu'il est mis en rapport avec les populations nomades du désert et le pays de Poun, dont on va reparler dans une minute. Alors un petit résumé peut-être sur ce qu'on sait pour l'Égypte pharaonique des Medjay, qui sont donc une tribu, une ethnie, on sait comment dire, du désert oriental. Vous savez que les nomades sont assez peu visibles dans les sources égyptiennes, mais on en a des attestations sporadiques, en particulier donc une documentation du Moyen Empire trouvée dans la forteresse de Semna, en Basse-Nubie, collection, enfin, qui réfère à une situation de la forteresse de Semna, mais qui a été trouvée en région thébaine. Ce sont ces documents qu'on appelle les Semna Dispatches, qui font donc des rapports quotidiens sur ce qui se passe dans la forteresse de Semna et dans des forteresses voisines, et qui racontent donc la circulation de petits groupes de Medjay, surtout des femmes d'ailleurs, hein, des groupes familiaux de 8-10 personnes qui s'approchent des forts pour faire du commerce et échanger des produits minéraux divers avec les Égyptiens qui les rétribuent en général en blé ou en pain et qui les approvisionnent surtout en eau, qui a l'air d'être un des problèmes à certaines périodes dans ce désert. Alors ces Medjay, donc on peut supposer qu'au départ ils étaient plutôt dans le sud de l'Égypte, dans la Haute Égypte, qu'on voit maintenant un millénaire et demi plus tard en Basse-Nubie, sont également visibles dans l'archéologie, c'est ce que le consensus aujourd'hui là-dessus, dans une culture assez peu connue qu'on appelle la culture des Pan Graves, du fait que les cimetières qui témoignent de cette culture sont présentent des tombes fausses, circulaires et assez peu profondes, qui ont évoqué pour les premiers fouilleurs des poils à frire. Et ces cimetières de Pan Graves, donc, ils sont répartis dans la vallée entre, disons, la Moyenne Égypte, au niveau d'Assiout, et puis la Basse-Nubie, sont également des cimetières qui reflètent des petits groupes familiaux, avec surtout des femmes et des enfants, une culture pastorale dont la caractéristique principale est cette façon de peindre de couleurs, de rayures ou de poids colorés, les crânes d'ovicaprinés, et ce qui semble faire d'eux donc, principalement une culture d'éleveurs. Cette mobilité des groupes n'est pas la moindre des difficultés quand on veut saisir leur présence, surtout aux franges d'une culture aussi forte et aussi portée sur l'écrit que la culture pharaonique. Et on peut prendre des parallèles ethnographiques récents, puisqu'il y a des enquêtes ethnographiques en cours sur les Bédouins dans le désert oriental, en particulier au niveau du Soudan d'ailleurs, plus qu'en Égypte. Mais on perçoit, même sur la durée historique, une grande mobilité. Par exemple, au moment des fouilles de Veil et Renac, Veil documente la présence aux périphéries de Coptos d'une tribu de Bicharins qui aujourd'hui sont censés résident surtout dans le désert soudanais, donc sont descendus beaucoup plus au sud, et on les voit ici en périphérie de la zone de jardin de Coptos, qui était non loin du centre-ville fouillé par Veil et Renac. Donc il faut garder en tête, d'une part, le faible nombre de ces personnes et surtout leur très forte mobilité qui fait qu'on n'a pas beaucoup d'informations sur leur possible impact avec la culture pharaonique et surtout leur rôle dans le commerce et les échanges. Néanmoins, c'est une chose bien connue et que je rappelle vraiment pour mémoire, que dès les temps prédynastiques circulent dans toute la Haute Égypte des matériaux venus d'Orient, comme l'obsidienne, comme le lapis-lazuli, qui n'ont pas pu arriver autrement que par la côte de la mer Rouge, au niveau de la Haute-Égypte, qui est la première à consommer et à faire usage de ces matériaux, sans parler de l'usage des sauts-cylindres ou des palettes et couteaux historiés, par exemple, pour lesquels on pense même que des artistes, artisans orientaux auraient pu intervenir en Égypte même sur des matériaux analysés comme locaux. Donc un désert qui n'est pas vide, mais rempli de peu de gens et qui se promène, si je peux dire. Alors, le rapport maintenant, disons dans un sens est-ouest, entre Coptos et la mer Rouge via le Wadi Hammamat, donc pour remonter un petit peu encore dans le temps au quatrième millénaire, malgré la présence de ces colosses de mines qui quand même témoignent de la présence d'un groupe humain particulièrement structuré, organisé, et en particulier en termes de religion, hein, ayant quand même déjà une vision assez claire et une technologie tout à fait développée. Malgré cette présence, donc, on n'a pas de témoignages tellement vivants de la coptose prédynastique, à part quelques objets retrouvés par Petrick dans les Favissa. Et on ne voit pas, par exemple, exister là ce qu'on appelle en haute Égypte les proto-royaumes, comme Nagada, comme Hierakonpolis, par exemple, dont pourtant les productions artistiques, et les statuaires en particulier, sont beaucoup plus modestes. Cette singularité même et l'absence de développement urbain perceptible maintenant, mais ce qui ne veut pas dire qu'il n'a pas existé, dans la région de Coptos, c'est un fait à signaler qui est peut-être en rapport justement avec l'existence d'une population poursuivant des pratiques culturelles différentes du reste de la Haute Égypte. Quoi qu'il en soit de cette situation, donc très tôt aussi, il faut rappeler ici la relation qui existe entre l'Égypte et le pays de Punt, sans m'appesantir sur un sujet qui a déjà fait couler beaucoup d'encre. Donc c'est un terme qui est attesté dès la 5e dynastie par la pierre de Palerme et qui, je le rappelle, disparaît après le Nouvel Empire pendant tout le premier millénaire pour se retrouver simplement dans les textes religieux des temples hellénistiques et romains. Punt est associé, tout le monde le sait, à l'encens, à la myrrhe Antiou et donc à tous les produits aromatiques qui sont liés au culte divin et au culte funéraire. Je ne reviens pas ici sur la localisation de Punt qui a été longtemps débattue. Simplement, je fais remarquer que selon les périodes, des routes terrestres vers Punt sont bien attestées. Et récemment, donc, le graffito découvert dans le désert arabique au nom de Ramsès III remet apparemment à l'honneur l'hypothèse d'une voie terrestre pour arriver jusqu'à certains points de l'Arabie, qu'encore une fois, les sources à ce moment-là n'appellent pas vraiment Punt. Une chose qui est claire, donc je reprends là cette carte publiée dans un catalogue il y a quelques années sur le Yémen, qui situe donc les produits qui intéressaient effectivement le commerce dit de Punt, c'est-à-dire l'encens et la myrrhe, hein, qui peuvent en effet être assignés à bien des régions différentes et la localisation de Punt donc, varie selon les chercheurs et les périodes et l'idéologie de chacun, entre la côte sud du Soudan, la Somalie, voire même la côte orientale de la Somalie et l'Arabie, ce qui n'est pas vraiment un sujet. Et Fatovic a proposé d'ailleurs de voir dans Punt une appellation qui serait tout pays accessible à partir de la mer dans lequel on trouverait l'encens, étant entendu d'ailleurs qu'on pouvait aussi imaginer dès cette époque des comptoirs commerciaux rassemblant les produits jugés désirables et recherchés par les Égyptiens. En tout cas, l'accès à Punt se fait en bateau, et dans les inscriptions du Wadi Hammamat, on a évidemment ces mentions d'expéditions qui, tout en s'occupant de la pierre de Béhren et en profitant de leur passage pour débiter des blocs ou rapporter des blocs vers la vallée, vont monter des bateaux sur la côte de la mer Rouge. Et là, je pense que les indications récentes sur les fouilles de Mersa Gawazis nous mettront tout à fait au cœur de cette situation, au moins pour le Moyen Empire. Au Nouvel Empire, donc à ma connaissance, après la 18e dynastie, on n'a pas tellement de points de points portuaires attestés sur la côte de la mer Rouge, mais les célèbres tableaux de la reine Hatshepsut à Deir el-Bahari, sur le portique, troisième portique, montrent d'une part donc un accès direct des Égyptiens à une réalité géographique et ethnique différente de la leur, puisqu'ils ont pris la peine de représenter des huttes sur pilotis avec une végétation et des animaux entre guillemets exotiques. Et le but principal de l'expédition, donc, est de rapporter les arbres en sang pour des tentatives d'acclimatation. C'est une façon de faire des Égyptiens, d'essayer de se procurer le produit sur leur propre territoire, qui sera répétée par Ramsès III, d'après le grand papyrus Harris, hein, lequel, à la fin, donc, cite plusieurs... à plusieurs reprises le nom de Punt et surtout décrit une expédition faite justement pour apporter des plants d'arbres en sang en même temps que de la myrrhe. On parle aussi à ce moment-là de l'or de Punt et de l'électrum de Punt, donc des richesses minérales variées. D'autres passages textuels de la 18e dynastie citent alors en sens inverse l'arrivée ou laissent supposer l'arrivée de Puntite en Égypte, imaginant donc que la découverte, la pratique des voies commerciales était, comme on s'en serait douté, à double sens. Au premier millénaire, la situation est assez obscure. Hein, en Égypte, vous savez que c'est un long millénaire de période intermédiaire. Et la documentation est surtout celle du Wadi Hammamat, qui montre le maintien des exploitations de carrières. Il faut signaler à l'époque Saïd, donc dès le 7e siècle, une connaissance relative de ce qui se passe sur la côte arabique avec l'apparition de l'ethnique Heger, qui est donc désignation, semble-t-il, d'une des populations présentes à ce moment-là sur la côte orientale de la péninsule, occidentale, pardon, de la péninsule arabique. Et Mine est appelé immédiatement, récupère l'épithète, seigneur de Heger, donc ce qui montre quand même le rapport entre Coptos et cette zone. Alors venons-en maintenant, après cette longue introduction, au site de Coptos lui-même, qui, comme vous le voyez, ne présente que peu de restes impressionnants, à part de grosses murailles romaines qui sont datées assez vaguement du 3e siècle, 2e, 3e siècle, mais pour l'instant, on n'a pas vraiment regardé ça dans le détail. Donc je voudrais dire un mot de Coptos hellénistique pour commencer et faire remarquer, donc, tout au long de ce que nous avons pu nous observer dans nos fouilles et ce que dit la documentation depuis quelque temps, qu'il y a une coïncidence extrêmement étroite entre les périodes de floruite architecturale et monumentale de Coptos et les périodes d'aménagement ou d'exploration intensive du désert occidental. Alors c'est bien connu évidemment pour Ptolémée II, je n'insiste pas, avec le dossier du fameux Sénouchéri, d'après la lecture de Pétri, dans lequel on a reconnu maintenant un grec du nom de Zénon, qui a laissé un ensemble de monuments, et en particulier deux magnifiques statues, qui font état des travaux qu'il a pu mener à Coptos, lesquels travaux semblent concerner, donc dans la partie, alors ici un plan topo du site, donc qui est celui sur lequel travaille la mission actuellement, donc on voit en vert ici les constructions attestées et datables avec certitude de Ptolémée II. Donc tout l'aménagement de ce temple à double axe, l'axe du sud étant celui de Mine, l'axe du nord celui d'Isis. Donc l'aménagement avec en particulier un aménagement de deux pylônes, le pylône médian étant d'époque romaine, et apparemment la reprise de tout le fond du temple, si on comprend bien pour l'instant. Et surtout, alors voilà, ça, il y a quelques images de ça, donc le premier pylône d'Isis, ouvert dans l'enceinte en briques générales qui daterait de Nectanébo. Le troisième pylône, qui était suivi de colonnade. Alors aujourd'hui reste le dallage du troisième pylône, mais la colonnade a complètement disparu, si on voit bien, qui était décoré donc de relief d'une qualité absolument excellente. C'est un travail tout à fait remarquable. Sur l'axe de Mine, probablement un aménagement qui consiste en la rehausse de la partie du sanctuaire avec l'aménagement de ce grand escalier qui, vous le voyez, à l'époque de Veil et Reynac, puisque j'ai la chance de pouvoir, grâce au Musée des Beaux-Arts de Lyon, bénéficier d'un fonds d'archives de photos prises par Veil et par Martineau, l'architecte de Reynac. Vous voyez la hauteur des blés considérables qui a disparu entre 1910-1911 et aujourd'hui. Alors, de façon intéressante, déjà à cette époque, l'évergétisme, tel qu'on peut le concevoir à travers les textes de Zénon, s'étend au-delà de la zone même du centre-ville, puisqu'on a tout à fait au sud, donc dans la ville de Crous, également des travaux importants et une statue de Zénon qui ne cède en rien à celle de Coptos. Et on fonctionne donc déjà sur la notion de territoire religieux qui n'était pas forcément très évidente à Coptos avant cette période. Pour autant, on n'a pas vraiment de témoignages sur l'activité sur les routes désertiques, me semble-t-il. Et au IIe siècle, donc, si la vie suit son cours à Coptos, si je puis dire, on a des monuments plus modestes qui peut-être sont à interpréter, encore une fois, comme un investissement particulier dans cette région et vers les côtes, en particulier donc la construction d'un mamizi qui a été donc identifié tout à fait récemment et l'aménagement d'un axe processionnel par Ptolémée IV, Mamizi, qui lui-même étant fort ruiné, n'avait guère été identifié avant nos récents nettoyages. Donc un silence des sources monumentales assez considérable. Si on m'a donné une demi-heure, je ne crois pas qu'il me reste que deux minutes. Sorry, I'm just going for a while. La construction, les constructions ensuite sont relativement abondantes pendant le premier siècle et il faut également signaler la présence d'un temple, malheureusement aujourd'hui entièrement en remploi dans la zone que Veil et Reynac ont appelée des églises, tout à fait à l'ouest du site, hein, puisque la ville s'est déplacé suivant le Nil d'est en ouest, et les constructions les plus récentes donc, sont à l'ouest du grand Téménos divin. Et on a donc ici, dans la zone où reste encore un baptistère, une construction totalement éventrée, enfin les fondations d'une construction, qui est entièrement constituée de blocs de remploi de Ptolémée IX, provenant d'un temple dont la qualité de gravure était absolument excellente, construite en pierre locale de la carrière de Hégaza, et dont on peut maintenant remonter au moins une bonne partie de l'entrée monumentale et des reliefs de façades. La présence, alors ce qui est intéressant, c'est que ce temple est datable par la titulature de Ptolémée IX de la deuxième partie de son règne, donc entre 88 et 80, et cet investissement monumental énorme, hein, parce que c'est vraiment une construction qui doit être étendue et dont on perçoit vraiment pour l'instant que très peu de choses, montre un attachement particulier de ce roi à cette ville, dû peut-être au rôle que les Coptites, éventuellement, qui avaient de forts liens avec Alexandrie, comme on sait, ont joué tout au long du long conflit qui a opposé Ptolémée IX à Ptolémée X. En tout cas, c'est un projet très ambitieux, qui témoigne d'une étape nouvelle, beaucoup plus que des petites constructions qui pourtant ont fait date et étaient probablement très marquantes pour la population, comme la chapelle oraculaire de Cléopâtre VII, qui a fait l'objet de la publication de thèse de Claude Tronecker il y a déjà quelques années. Alors, de l'époque romaine, qu'est-ce qu'on voit ? Des aménagements monumentaux, donc sans trop de modifications. Il y a certainement un énorme remaniement, encore une fois, dans la partie est, et des aménagements donc, d'habillage dont on va reparler au premier siècle. Donc je ne soulignerai pas au public éclairé qui est devant moi la ruée vers l'or qui s'est produite au premier siècle avec l'établissement de la domination romaine. Et je ferai simplement ressortir donc quelques éléments architecturaux qui montrent un très profond remaniement de l'espace urbain, relativement compréhensible d'ailleurs, parce que ce bloc énorme de l'enceinte de Netanebo faisait un obstacle qui pouvait être relativement gênant entre l'arrivée des caravanes à l'est et le départ sur le Nil à l'ouest, et la distance donc allait s'accroissant apparemment, puisque le mouvement de balayage du Nil vers l'ouest dans cette zone semble avoir été relativement rapide et appuyé. Alors, à Coptos, même les traces de cet élan urbain, c'est le dossier Parthénios, sur lequel je ne reviens pas, plus de 25 témoignages épigraphiques qui concernent surtout des aménagements vierges, je dirais, hein, des portes, des passages de portes en grande partie, des dédicaces également d'enclos, d'enceintes. Donc on a ici cette zone qui a été fouillée à partir de 2006. Sur la race du Téménos ptolémaïque qui enclôt le temple de Minédisis, donc un phénomène de réhausse et d'ouverture, de percement à travers ce mur arasé, de manière à faciliter justement la circulation vers l'est, avec un aménagement de porte monumentale dans le goût pharaonique, celle-ci donc dédiée par Auguste, avec des inscriptions encore de Néron, nommées par le bandeau de corniche, qui est donc inscrit en grec et signé par Ténios, et sur les passages d'encadrement, une dédicace d'Antonin le Pieux. Donc la porte est restée en usage jusqu'au milieu du IIe siècle. Cette porte, donc, voilà, l'entour est assemblé, tout ça a été naturellement très cassé, comme vous l'avez vu sur une des diapositives, et l'inscription grecque qui a pu être entièrement renouvelée. Cette porte, ici le revers de la même porte donc, qui faisait la façade ouest du mur vers l'intérieur. Une autre porte de service dont des blocs ont été retrouvés à proximité. Et tous ces ensembles sont aujourd'hui en cours d'anastylose, près de leur lieu découverte. Vous voyez ici le tracé du mur ptolémaïque arasé, sur lequel encore au IIIe siècle se sont installées des chapelles réutilisant des tambours de colonnes qui font penser qu'il y avait également une colonnade monumentale qui s'est développée ici. De l'autre côté, à l'ouest du Tébénos, une énorme percée également, une porte qui est installée, vous voyez, de façon assez brutale, avec un mur nouveau contre le mur même du temple de Mine, autorisant donc une traversée complète d'ouest en est, au sud du temple, le long du mur sud du temple. On suppose qu'au nord, il y avait également une rue importante, puisqu'il y a une porte là qui semble avoir fonctionné assez longtemps. Alors ici, un petit résumé, je suis désolée, ce n'est pas très visible, c'est juste pour vous montrer la répartition dans le temps des constructions de Parthénios ou des dédicaces de Parthénios, qui montrent donc un pic d'activité, évidemment, autour du règne de Claude, un petit peu Néron. Parthénios aurait été actif donc entre 17-18 et 65-66, et il y a évidemment, en fonction de la longueur des règnes, des activités plus ou moins marquées, mais tout de même une répartition qui correspond à peu près à la documentation qu'on peut voir, si j'ai bien compris, le long de la route de Myos-Hormos. Encore un des monuments de Parthénios, mais cette fois-ci la dédicace est en démotique, et le jeu des langues entre grec, démotique et hiéroglyphique est quelque chose d'assez important justement pour identifier le statut de ces monuments, d'un des stèles entièrement démotiques qui sont manifestement des documents à usage interne et qui montrent le poids social de Parthénios. Dernier point qu'on doit aux Romains, donc l'aménagement de ces deux colonnades identifiées, il y en avait probablement les mêmes ou des symétriques dans la partie sud. Colonnade, cette fois-ci, oui, I agree. Colonnade qui est donc installée sur la rase du, de la même façon qu'on l'a vu dans la partie précédente, est installée sur la rase du mur hellénistique, probablement avec un accès monumental. Alors, l'étude de cette série de colonnes, dont certaines étaient encore visibles et dont nous avons remonté déjà quelques-unes, permet de remettre en phase l'inscription bien connue du marchand d'Aden, publiée par Wagner en 76 après avoir été identifiée par Tronecker. Et on a encore dans cette zone tous les blocs qui permettent de remonter le piédestal d'une statue. Donc le bloc actuellement est dans le magasin de Coptos, après avoir été en balade dans le Gebel pendant quelques années. Et d'après les traces, donc les accroches métalliques sur le socle de la statue, on voit qu'il devait y avoir ici donc une statue d'une déesse debout, probablement Isis, qui ressemblait peut-être un peu à ce que M. Saïd-Botham a trouvé il y a quelques années sur la côte de la mer Rouge. Donc ça, c'est un point intéressant parce que ça correspond au règne de Vespasien qui, si j'ai bien compris les travaux des collègues, est effectivement un pic d'aménagement de certaines routes du désert oriental. Il y aurait peut-être là donc une corrélation intéressante. Et les travaux du 1er siècle sont aussi, s'étendent également sur toute la région avec le temple d'El-Kala et également un pylône construit à Kous, où on a trouvé aussi deux stèles de Parthénios. Donc je ne veux pas abuser de votre temps et surtout vous mettre en retard pour ce colloque dès la première communication. Je conclurai en disant que la discrépance est quand même extrêmement forte, et donc je resterai sur Parthénios, entre la documentation telle qu'on la voit du côté pharaonique et de la documentation donc hiéroglyphique monumentale, et ce qu'on peut voir dans les dossiers documentaires, par exemple dans le dossier de Nicanor, où certes Parthénios et les membres de sa famille sont mentionnés, mais de façon relativement légère finalement, alors qu'il semblerait qu'il ait été quand même un entrepreneur fort actif et l'homme fort de sa communauté. Il est clair que là, les sources, comme c'est souvent le cas, mais sont particulièrement difficiles à interpréter à leur juste valeur, ce qui montre combien il est important effectivement de croiser autant qu'on puisse le faire ce qui se passe dans la vallée avec ce que disent les inscriptions de route. Alors, malgré cette documentation incomplète et souvent peu satisfaisante, je signalerai des travaux qui ont été faits qui montrent l'implantation d'une communauté d'Italiens à Coptos, en particulier à l'est le long du mur. Et je voudrais pour finir, donc, dans la zone de ce monument que nous sommes en train de démonter, signaler l'abord de traits manifestement romains, probablement du 1er siècle, qui malheureusement pour l'instant sont encore coincés sous les blocs et inaccessibles, mais qui sont un potentiel sans doute assez intéressant pour avoir une vue de la ville de Coptos dans son aspect non monumental, non sacré. Avec un dépotoir donc extrêmement dense et concentré, où on voit une grande quantité d'amphores de ce type, hein, et ça, on n'a pas pu, vous voyez les blocs au-dessus, on n'a pas pu aller très loin. Cette année, en dégageant au sud, on a vu apparaître un dallage, une chaussée dallée relativement considérable, et vers le fond du sondage, là-haut, donc des murs de briques avec un sol de briques dallées. Donc tout ça est extrêmement prometteur. Et donc, dans 20 ans, au prochain colloque, je pense que j'aurai plus de choses à vous dire sur le rapport entre Coptos, la mer, le port et les Romains du 1er siècle. Je vous remercie de votre attention et m'excuse d'avoir abusé de votre patience.